Je terminerai avec le dernier niveau, la question locale. Donc, je vois que dans votre forum, vous allez avoir des ateliers sur cette question et que c'est un point central pour un forum local, hein. C'est la question de ce qu'on pourrait appeler la relocalisation des activités. C'est-à-dire que les alternatives au libre-échange, eh bien, c'est clairement de redonner vie à l'espace territorial. On a vu tout à l'heure que le libre-échange généralisé, c'était la déterritorialisation. C'est-à-dire l'absence d'enracinement local de la production, des entreprises, etc. Eh bien, l'idée, c'est qu'il faut prendre le contre-pied de cette évolution tout à fait dévastatrice. Pourquoi? Pourquoi c'est important la relocalisation? Eh bien, parce que ça permet le maintien de l'emploi, ça permet le maintien d'une qualité de vie, en défendant localement des productions, des modes de consommation et d'organisation. Ça permet aussi de définir et de préserver des relations de proximité, notamment des relations de proximité entre les producteurs et les consommateurs, ce qui peut être une source de qualité tout à fait importante, des participations des usagers, des consommateurs à la vie de l'entreprise. Et là, ça m'amène au secteur, ce qu'on pourrait appeler l'économie solidaire, qui est avec les AMAP, bon, je crois que vous allez parler des AMAP ici, puis il y en a une dans la région, bien sûr, même plusieurs, j'imagine, les coopératives, etc. C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'il faut redonner vie, même si ça existe aujourd'hui, mais c'est à une échelle trop insuffisante, à toutes ces expériences qui précisément permettent de créer un tissu local dans le domaine de la production, de l'agriculture, et qui est tout à fait essentiel pour la qualité de la vie, pour la préservation de l'emploi. Sans oublier le domaine des monnaies, le domaine monétaire. Il est clair que j'en ai pas parlé, ou à peine quand j'ai parlé des guerres monétaires, mais la monnaie, c'est quelque chose de fondamental. D'ailleurs, on l'a oublié quand on a construit la zone euro. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'euro n'est pas une vraie monnaie pour moi, n'est pas une monnaie à part entière. C'est que c'est une monnaie pour les échanges de marchandises, mais ce n'est pas une monnaie politique. Ce n'est pas une monnaie avec une dimension sociale. Hein. Et précisément, l'idée, ça serait au niveau local. Il y a déjà des expériences. On pense au SEL, par exemple, au système d'échanges locaux. C'est de construire des échanges monétaires, des échanges où la monnaie n'est qu'un instrument d'échanges sociaux, d'échanges sur une base d'égalité, hein, entre des individus qui décident de vivre collectivement et d'échanger dans une base locale. Donc tout ça permet aussi d'aider à construire ces alternatives locales. Autre idée, c'est la question des banques. Alors là, bon, les banques, c'est aussi un élément dont on parle beaucoup avec la crise actuelle. Les banques ont une part énorme de responsabilités dans la crise actuelle, comme vous le savez. Mais même avant la crise des subprimes, hein, qui a commencé en 2007, les banques sont des acteurs qui ont une part de responsabilité absolument considérable dans ce qu'on pourrait appeler la financiarisation de l'économie, dans le développement d'une monnaie ou d'un système monétaire qui n'est absolument pas dans l'intérêt des individus. Et qui est un système de prédation, en fait, pour extorquer un maximum de ressources sur les déposants, sur les petites entreprises, les usagers, notamment les plus petits, hein, pour essayer donc d'enrichir les actionnaires, etc. Donc, si vous voulez, les banques, c'est vraiment un gros point noir aujourd'hui dans nos économies. Alors, un moyen de contrer ça serait de se dire qu'il faut absolument avoir un système bancaire décentralisé, c'est-à-dire retrouver des banques locales ou des institutions financières ou de crédit locales qui soient proches des entreprises locales, des coopératives locales, des usagers, des ménages qui veulent s'endetter éventuellement pour acheter leur logement, etc. Ce système bancaire très décentralisé, il a existé. En France, quand vous vous promenez, vous avez plein de banques locales. Vous direz, c'est des banques capitalistes, ce n'est pas des enfants de cœur. Mais quand même, il y avait une proximité. Hein, la banque, c'était une petite banque en général qui connaissait très bien les gens du coin, qui connaissait bien les PME, qui était attachée en général au développement de l'activité économique locale, etc. Donc qu'est-ce que sont devenues toutes ces petites banques? Elles ont été rachetées, soit elles ont disparu, soit elles existent toujours, quelquefois avec la même enseigne, mais en fait, elles ne sont plus du tout indépendantes. Elles ont été rachetées à des grands groupes, CIC, CCF, Crédit Agricole, etc. Et du coup, comme elles ont été contrôlées par ces mastodontes bancaires, eh bien, ces mastodontes leur ont insufflé la logique capitaliste au maximum, si vous voulez. Et donc, elles ne sont plus là pour vivre localement ou aider au développement local, mais elles sont beaucoup plus pour essayer de drainer le maximum d'argent pour éventuellement le transférer ailleurs, etc. Et pas pour développer l'activité locale. Donc c'est clair qu'on ne réussira pas la délocalisation sans avoir aussi des systèmes de financement adaptés avec des acteurs de crédit qui correspondent, qui sont intéressés par les financements locaux. Et puis je terminerai parce que d'ailleurs je vois aussi que c'est abordé plus tard dans votre forum. Tout ça, il y a aussi la question de l'habitat et de l'urbanisme, hein, d'urbanisation. Ça fait partie aussi de la question de la relocalisation. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui qu'il y a un habitat qui est de plus en plus dispersé, parce que le coût des terrains dans les villes est très cher, tout simplement, et que du coup les gens sont obligés de prendre des transports, sont obligés de prendre leur voiture, quand les transports en commun n'existent pas, etc. Et donc là, il y a tout un ensemble de propositions alternatives à faire. Il y a des réflexions déjà, il y a même des expériences hein, sur des villes. Alors on a tenté en France des villes nouvelles, par exemple, dans le passé, qui étaient un peu sur cette idée de regrouper les gens avec un habitat bien organisé, fonctionnel, où il y avait la possibilité de circuler facilement, etc. Bon. Alors je ne sais pas si ces modèles-là sont peut-être un peu vieux et dépassés aujourd'hui, mais c'est l'idée de réfléchir à un habitat et à une organisation, parce que ça pose aussi la question des transports. Et la question des transports, aujourd'hui, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce que, avec la crise énergétique, qui va devenir de plus en plus importante, les transports vont devenir de plus en plus difficiles. Et pas uniquement le transport aérien dont on nous parle beaucoup ces jours-ci. Et tout simplement, le transport par la voiture ou par les bus, etc. Enfin, par les... Et donc, l'idée, ça serait de développer des modes de transport de plus en plus collectifs, avec bien sûr des énergies renouvelables et non polluantes. Et l'idée aussi, c'est de décourager les transports de longue distance. Alors, par exemple, là, nous avons une proposition à faire. C'est ce qu'on appelle la taxe kilométrique. C'est-à-dire de taxer le transport, notamment de marchandises, là, je ne parle pas des transports d'individus, hein, de personnes, des transports de marchandises en fonction de la distance parcourue. D'accord? Ce qu'on appelle la taxe kilométrique. Donc, ce qui serait un moyen de décourager une grande partie des transports de longue distance, parfois inutiles, d'accord? Et qui permettrait de relocaliser une partie de l'activité. Donc, ça serait un moyen d'amener une relocalisation en jouant sur les transports et donc en décourageant les transports source de pollution. Est-ce que vous savez, par exemple, que en Europe, si je reste sur l'Europe, donc ce n'est pas des distances énormes, mais c'est quand même l'Europe, quand vous regardez ce qui passe aux frontières, entre par exemple la France et l'Allemagne, eh bien, je ne sais pas si vous savez, mais plus de 50% des marchandises qui sont échangées, par voie fluviale, par le chemin de fer, par les routes, les transports routiers, c'est des marchandises que les économistes appellent des marchandises similaires. C'est-à-dire que la France vend des voitures en Allemagne, des 5 chevaux par exemple, et les Allemands nous vendent des 5 chevaux. Alors évidemment, le consommateur français, il préfère avoir une voiture allemande, et le consommateur allemand, quelquefois, des voitures françaises. Bon. Donc, ça explique pourquoi il y a ces échanges croisés. Mais c'est incroyable. Mais prenons un exemple qui est encore plus scandaleux. Vous allez sur le tunnel du Mont-Blanc, vous regardez tous ces camions, je ne sais pas si vous l'avez déjà pris, qui circulent en sens inverse. Si vous arrêtiez ces camions, qu'est-ce que vous verriez? Vous verriez qu'un camion qui part avec des laitues dans un sens et un autre camion qui revient avec des laitues dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on passe son temps à échanger sur grande distance, alors qu'on pourrait les produire localement, des marchandises, que ce soit des voitures ou des laitues, alors que ces transports croisés similaires, de produits similaires, pourraient être découragés, enfin, notamment les taxes kilométriques, de manière à relocaliser justement cette production et à éviter la pollution sonore, pollution atmosphérique, etc., de ces transports routiers, etc. Donc, si vous voulez, il y a plein d'initiatives à prendre. Les gouvernements sont d'ailleurs probablement obligés progressivement, avec la crise de l'énergie qui va se faire sentir de plus en plus durement, avec la hausse inévitable du prix de l'énergie, à repenser des systèmes de transport et d'habitat, hein, entre autres. Et donc là, il y a vraiment tout un chantier. C'est pas pour aujourd'hui exactement, mais on voit que dans les décennies et même avant qui vont venir, ça va être il va falloir trouver des solutions alternatives. Donc ce que je dis là, ça peut paraître un peu utopique, mais en réalité, c'est ce qui va se produire inévitablement sous la pression des événements, notamment la hausse du coût de l'énergie. Voilà. Alors,